Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, en Chine, comment les données numériques renouvellent la recherche?
Oui, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, les portes se sont progressivement fermées aux chercheurs spécialistes de la Chine. Des entraves aux déplacements, une présence ostentatoire des autorités pour le moindre entretien, des documents confisqués parfois. Alors si les sciences sociales ont encore une certaine place, comme les travaux de Camille Salgue sur les travailleurs migrants, les migrants ruraux dans le sud de la Chine, ou ceux de Judith Audin qui a mené il n'y a pas si longtemps un projet de recherche sur la recomposition des espaces urbains à Datong dans la province du Shaanxi. Eh bien, les recherches qui concernent le fait politique, le militaire, le renseignement, la diplomatie sont devenues, pour ainsi dire, impossibles. Et c'est la raison pour laquelle les travaux de recherche récents investissent le terrain numérique chinois. Bonjour Paul Charron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM. Vous aviez publié l'année dernière avec votre collègue Jean-Gene Villemer une enquête sur les réseaux d'influence et les opérations d'influence chinoises, et vous venez de publier dans la revue Hérodote de l'exploitation des traces numériques en contexte autoritaire, une évaluation de l'apport du renseignement de sources ouvertes aux études chinoises. Alors Paul Charron, comment vous, dans vos travaux, avez exploité les bases de données chinoises, lesquelles des appels d'offres publics sur Internet ont nourri vos recherches notamment?
Oui, c'est exact. Les appels d'offres publics, donc il y a toute une législation qui s'est installée en Chine et qui impose aux administrations de faire la publicité d'un certain nombre de contrats passés avec des acteurs privés ou d'autres acteurs publics. Et ces contrats comportent énormément d'informations qui peuvent être utiles pour les chercheurs. Elles l'ont été pour nous lorsqu'on s'est penché sur une base de l'armée populaire de libération, qui est la base 311, installée à Fuzhou, dans la Chine du Sud.
Qu'on peut pas deviner si on passe devant. Pas trop.
Pas nécessairement.
Il y a une piscine.
Voilà, pas loin. Ces informations nous ont permis notamment de localiser la base, mais aussi de recueillir des informations sur le fonctionnement, sur les règles, sur les règles de sécurité qui sont imposées aux entreprises privées qui pénètrent sur l'enceinte de la base, etc. Et donc, à ce titre, les marchés publics sont extrêmement précieux pour les chercheurs.
Mais comment ça se fait d'ailleurs? Comment se fait-il que les procédures d'appel d'offres, mais surtout les données des entreprises qui candidatent, comment peuvent-elles se retrouver en ligne en Chine, dans un pays qui contrôle ces données?
Tout simplement parce que en Chine comme ailleurs, il y a du laxisme, que donc certaines personnes laissent des informations en ligne alors qu'elles ne devraient pas y être, et puis aussi parce que le régime ne voit pas forcément de danger dans la publication de ce type d'informations. Ou c'est seulement a posteriori, on voit bien qu'il y a un phénomène de rattrapage parfois du régime qui bloque l'accès à certaines informations que des chercheurs ont pu exploiter. Mais tant qu'on a un temps d'avance, si je puis dire, sur le régime, on peut accéder à des informations extrêmement précieuses.
Donc pour bien comprendre, dans ces appels d'offres, il y a vraiment des éléments qui vous ont mis la puce à l'oreille et qui vous ont donné des indications très précieuses sur cette base 311, qui est le principal acteur du système de réseau de l'armée populaire de libération.
Alors, ça nous a surtout donné l'adresse officielle de la base et qui a été la première information qui nous a permis ensuite d'identifier la véritable localisation de la base. Donc cette base, c'est pas la base la plus importante. Disons que c'est la seule base connue aujourd'hui qui pratique ou qui met en œuvre ce qu'on appelle les trois guerres, qui sont une forme de guerre sous le seuil du conflit armé, donc de la désinformation, de ce qu'ils appellent de la guerre politique, de la subversion, parfois des attaques cyber, etc.
Voilà, qui mènent des opérations d'influence via des stations de radio, des maisons d'édition, des universités. Est-ce que vous, Paul Charron, vous aviez encore récemment, pour votre part, un certain accès au terrain, à des entretiens avec des politiques, avec des militaires, peut-être avec des chefs d'entreprise chinois, où vous êtes contraint, là, depuis plusieurs années, de vous en tenir à ces données numériques?
Alors l'accès au terrain c'est raréfié, c'est devenu de plus en plus difficile, mais pas impossible. Alors en tout cas pour les sujets qui sont les miens, on peut continuer de parler à des officiels, à des militaires, à des diplomates. Le seul problème, c'est qu'en général, ça n'apporte rien parce que il s'agit simplement de délivrer une parole officielle, extrêmement contrainte, qui n'apporte rien aux travaux des chercheurs. Donc il faut contourner cette difficulté.
Vous avez reçu des militaires il n'y a pas longtemps à l'IRSEM.
Oui, effectivement, il y a deux ans, on a reçu une délégation de l'Armée populaire de libération à l'IRSEM. Et cette délégation ne se contentait de lire un document officiel fourni par les autorités de l'APL et n'avait aucune marge de manœuvre même dans les réponses apportées à nos questions. Il faut préciser aussi que pour mes travaux, dans la mesure, alors avant j'ai pu m'intéresser à d'autres sujets comme les élections locales et là le terrain physique est indispensable. Aujourd'hui mon terrain physique il s'est aussi déplacé parce que moi je m'intéresse aux opérations d'influence de la Chine à l'étranger et donc mon terrain aujourd'hui c'est plus le Japon, Taïwan, les États-Unis, l'Europe que la Chine elle-même.
Alors c'est aussi en étudiant les données en sources ouvertes que le chercheur allemand Adrian Zenz, très grand spécialiste des politiques répressives en Chine, a pu documenter les camps d'internement de la population ouïghour au Xinjiang. Alors à l'origine des Xinjiang Papers qui ont servi d'ailleurs de base de travail au tribunal ouïghour à Londres, il y a donc ce grand travail qu'il a fait en amont. Alors lui il connaît très 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 bien la province quoi qu'il en soit, mais il a étudié non pas des appels d'offres comme vous, mais des offres de recrutement d'emplois publics dans la province qui lui ont confirmé qu'il se passait vraiment quelque chose depuis des années déjà.
Oui, c'est ça. Ce qui est fascinant avec ces travaux, c'est qu'on voit bien que l'OSINT, et c'est ce qui illustre aussi en partie le numéro d'Hérodote, hein, donc l'accès aux sources ouvertes, c'est pas l'utilisation de technologies de pointe. C'est pas, alors, ça arrive parfois quand on utilise l'imagerie satellitaire ou d'autres techniques, par exemple en infrarouge, etc. Mais l'essentiel, c'est pas des nouvelles technologies, c'est une nouvelle démarche, une nouvelle façon de s'interroger sur les sources disponibles. On a affaire à un régime qui tente de contenir le maximum d'informations possibles. Quelle démarche je peux utiliser? Quel type d'information qui peut sembler banale puis-je utiliser pour répondre à la question? Et Adrian Zenz a utilisé en fait ces publications d'offres d'emploi que le gouvernement de la province du Xinjiang a rendu publiques dans un effort de transparence pour noter une espèce de construction d'un état sécuritaire dans la province du Xinjiang, la multiplication de postes de police qui assurent un maillage complet du territoire afin d'assurer un contrôle de la population totale.
Donc il y a eu plusieurs étapes, 2009-2011, vous les rappelez bien dans votre article, se rend compte que 2655 policiers destinés à constituer des unités de protection spéciale ont été recrutés. L'année d'après, en amont du 18e congrès du parti, ce sont 8000 nouveaux policiers qui sont recrutés et 78% des offres d'emploi concernent les zones rurale. Il y a comme ça plusieurs étapes jusqu'à vraiment élaborer cette construction et c'est les documents qui, encore une fois, ont vraiment servi à documenter aussi les audiences du tribunal ouïghour qui ont eu lieu à Londres et dont on a parlé dans les enjeux internationaux. Comment ensuite a-t-il complété ces données-là avec d'autres données, celles des images satellites, bien sûr, qui ne sont pas à proprement parler des données chinoises, mais qui lui ont servi, qui vous servent à vous aussi, Paul Charron, dans vos travaux?
Oui, bien sûr. L'imagerie est... Alors, bien évidemment, on trouve énormément de choses sur l'Internet sinophone. Les marchés publics dont j'ai parlé. Nous, on a utilisé aussi une base de données qui s'appelle CNKI, qui recense 90% des productions académiques et scientifiques chinoises. Et ça nous a permis notamment... en fait, c'est fascinant parce que c'est une base de données qui est utilisée par tous les chercheurs pour avoir accès aux articles scientifiques chinois. Mais ça peut révéler aussi des informations encore plus précieuses pour nous. Par exemple, on a fait des recherches avec le matricule de l'unité de l'APL qui nous intéressait et d'autres
L'Armée
unités.
L'Armée populaire de libération.
Voilà, pardon. Ouais, je vous en prie. Et ça nous a permis de retrouver des articles qui étaient écrits soit par des militaires, des officiers souvent, ou des chercheurs, des ingénieurs travaillant pour cette base. Et donc ça permet de reconstruire une cartographie des sujets sur lesquels travaille cette base. Et c'est comme ça que l'on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, la guerre cognitive est l'un des sujets phares de cette base et vraisemblablement de l'Armée populaire de libération. Donc, l'imagerie, c'est aussi, à côté de l'Internet sinophone, l'imagerie est sans doute l'outil le plus utilisé aujourd'hui. On l'a vu de manière magistrale au Xinjiang avec ces images qui nous ont permis d'observer l'évolution du nombre de camps, c'est-à-dire d'identifier combien de camps enferment aujourd'hui les Ouïghours, l'agrandissement de ces camps qui est observable à travers cette imagerie, mais il y a d'autres travaux qui ont montré aussi toute l'utilité de l'imagerie, avec par exemple l'identification en 2021 de 3 champs de silos susceptibles d'accueillir des missiles balistiques chinois dans les provinces du Gansu, du Xinjiang et en Mongolie intérieure. Donc ça, c'est des informations auxquelles de toute façon on n'aurait pas accès sur le terrain physique et que seul le terrain numérique permet de recueillir.
Alors, il y a des bases de données chinoises, il y a celles que vous mentionnez tout à l'heure, la CNKI, la China National Knowledge Infrastructure, coûte de plus en plus cher, donc il est difficile, oui, même pour les chercheurs aujourd'hui d'y avoir référence, mais vous y avez trouvé des informations précieuses. Il y a aussi les bases de données non chinoises, des ressources compilées par des acteurs à l'extérieur de la Chine et pas seulement en imagerie, qui, par exemple, vous mentionnez la China Defense University's Tracker, créée par un centre de recherche australien indépendant.
Oui, tout à fait, donc ça c'est un outil indispensable aujourd'hui, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour un certain nombre d'acteurs institutionnels. Je pense que tous les grands ministères de l'enseignement supérieur et les universités dans le monde aujourd'hui devraient consulter cette base de données avant de commencer à établir des projets de recherche avec une université chinoise. Parce que justement, cette base de données permet de montrer les liens entretenus par certaines universités chinoises, pas toutes, hein, il faut le préciser, et l'Armée populaire de libération. Alors, liens qui peuvent être plus ou moins forts, hein, il y a 7 universités qui sont officiellement rattachées à l'armée chinoise, mais il y a tout un tas d'autres universités qui travaillent avec l'armée sans que ce soit officiellement dit.
Alors, Paul Charron, sur l'accès à ces données, comment expliquer, malgré son caractère autoritaire, que le régime de Xi Jinping aujourd'hui ne parvienne pas du tout à contrôler ni les données chinoises auxquelles vous avez accès aujourd'hui, malgré cette volonté de contrôle, il a quand même mis des moyens colossaux dans la numérisation du pays, ni les images satellites, parce qu'on pourrait se dire que jusqu'à un certain point, les satellites peuvent avoir accès à ces lieux.
Oui, alors il y a un contrôle extrêmement fort de l'information et c'est ce qui rend aussi le travail difficile et en même temps enthousiasmant quelque part. Mais parfois on peut illustrer ça avec un exemple, c'est-à-dire que parfois c'est l'absence d'information qui est une information. Par exemple, pour identifier le lieu même de la base, on s'est rendu compte qu'on avait un périmètre, on commençait à chercher dans un périmètre et on s'est rendu compte qu'à un moment, la fonction Street View de Baidu Map était désactivé. Ça, c'est un indicateur en creux qu'on est sur un site sensible. Les autres grandes puissances font la même chose, hein. On désactive sur Google Maps, c'est pareil. Mais donc ça, c'est des informations aussi. Donc par leur volonté de contrôle, finalement, ils nous disent des choses aussi relativement intéressantes.
Alors ces données-là sont bien sûr passionnantes. Elles ne suffisent pas, en tout cas, terrain et données numériques se complètent. Est-ce qu'il y a encore des réticences chez les sinologues, chez les spécialistes de la Chine, à utiliser ces sources-là ?
Oui, disons que l'appropriation de ces nouvelles sources, de ces techniques, se fait de manière lente. Après, tous les chercheurs n'en ont pas besoin. Enfin, certains chercheurs continuent d'avoir un accès à leur terrain physique. Certains sujets ne se prêtent pas à ce type de démarche. D'autres, au contraire, particulièrement les miens, n'ont pas d'autre solution que d'avoir recours à ce type de ressources.
Merci beaucoup Paul Charron. Je rappelle que vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM, que vous venez de publier dans la revue Hérodote de l'exploitation des traces numériques en contexte autoritaire, une évaluation de l'apport du renseignement de sources ouvertes aux études chinoises. Donc revue Hérodote qui vient de paraître et qui est consacrée à l'open source intelligente, aux INT, enquête et terrain numérique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci. Les enjeux c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et à 6h40. Et bien, de nouveaux enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
France Culture. L'esprit d'ouverture.